le drame de Dorlan. Deux militaires tombés pour l'or de Guyane. Vous écoutez Archipel du crime. 11e épisode. Progresser dans la jungle amazonienne avec un uniforme qui colle à la peau et une arme qui pèse en bandoulière n'a rien de facile. Mais Sébastien Pissot et Stéphane Moralia en ont vu d'autres. Les deux militaires sont intervenus en Afghanistan, au Tchad, en Côte d'Ivoire. Ça fait presque un an maintenant qu'ils sont en Guyane, ce territoire d'outre-mer en Amérique du Sud. Ils sont affectés au sein du 9e régiment d'infanterie de marine, le 9e RIMA comme on dit. Nul ne sait alors qu'il va s'agir de leur dernière mission. Le 27 juin 2012, un hélicoptère les dépose dans le secteur de Dorlan pour sécuriser les lieux. Dorlan est un site d'extraction d'or important dans le sud-ouest de la Guyane, non loin de la commune de Maripasoula. Les militaires sont là dans le cadre de l'opération Harpie, une opération qui rassemble des gendarmes, un régiment de la Légion étrangère et ce fameux 9e RIMA. Leur mission est de faire reculer l'orpaillage clandestin en Guyane. Mais les hommes de la mission Harpie vont connaître la pire embuscade de leur histoire. Nous allons ensemble remonter le fil pour comprendre ce qui s'est passé. Ce matin de juin, un premier hélicoptère de l'opération Harpie essuie des tirs d'origine inconnue. Quelques heures plus tard, 36 gendarmes et commandos se déploient sur le terrain. L'adjudant Stéphane Moralia est en tête de colonne. À la mi-journée, ils ont progressé de quelques centaines de mètres. Quand tout à coup, plusieurs individus armés de fusils d'assaut les attaquent. Stéphane et deux gendarmes sont grièvement blessés. Le caporal-chef Sébastien Pissot, auxiliaire sanitaire, intervient immédiatement pour leur porter secours. Mais il est tué sur le coup. Stéphane Moralia, lui, mourra quelques heures plus tard, lors de son évacuation.
France Inter.
La lutte contre l'orpaillage a viré au drame hier en Guyane. Deux militaires ont été tués, deux gendarmes ont été grièvement blessés. Ils ont été touchés par balles lors d'une opération menée dans l'ouest de la Guyane, sur le territoire de la commune de Maripasoula, en pleine jungle. Les militaires et les gendarmes participaient à une opération conjointe de lutte contre l'orpaillage illégal. Sébastien Baer.
Les militaires sont tombés dans une embuscade au milieu de l'impénétrable forêt amazonienne où les arbres culminent à plus de 35 mètres. Une zone accessible uniquement en hélicoptère et en pirogue. Les explications de Didier Lomont, le commandant de la gendarmerie de Guyane.
Le nombre de tirs et les conditions dans lesquelles ça s'est passé sortent complètement des normes et ont l'air de ressembler plus à une embuscade délibérée qu'à un croisement inopiné.
Des hommages officiels seront rendus aux militaires à Cayenne, puis dans la cour des Invalides à Paris. Stéphane Moralia avait 28 ans, il était originaire du Tarn et il adorait la vie au grand air, surtout depuis son passage chez les Scouts de France. Sébastien Pissot, lui, avait 33 ans, des attaches à Angoulême, une femme et un enfant. Le double meurtre pose beaucoup de questions. Ce coin de jungle où ils sont tombés, est-il vraiment un dangereux Far West comme on l'entend ici et là depuis quelques années ? Et puis pourquoi Stéphane et Sébastien, deux sous-officiers de l'infanterie de marine, se sont-ils retrouvés en pleine forêt amazonienne à mener cette guerre aux orpailleurs? Il faut déjà comprendre ce que représente Dorlan à l'échelle de la Guyane. C'est un lieu qui, à lui tout seul, raconte l'histoire de l'or dans cette ancienne colonie devenue un département français en 1946. La Guyane française est riche en or. L'exploitation a été assez intense jusqu'au début du XXe siècle. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de l'aventurier Jean Galmot, dont on vous avait parlé dans l'épisode 7 sur les insurgés de Cayenne. Jean Galmot avait justement fait fortune dans les mines de l'Amazonie guyanaise. Mais après les deux guerres mondiales, l'activité a décliné. C'est à l'est, de l'autre côté du fleuve Oyapock, en Amazonie brésilienne, que les orpailleurs vont relancer l'activité. On est autour des années 1970, le cours de l'or est en pleine remontée. Les techniques pour mécaniser l'extraction d'or, jusqu'alors manuelles, commencent à se développer avec de puissantes pompes à eau, par exemple. Ces techniques traversent le fleuve Oyapock et voilà comment la course au métal précieux repart côté français. À Dorlin, notamment. Dans cette zone, comme dans tous les sites aurifères de Guyane, il y a toujours eu une cohabitation entre des orpailleurs légaux et des illégaux. Les illégaux étant souvent originaires des pays voisins, le Brésil et le Suriname, on parle alors d'orpailleurs clandestins ou de garimpeiros. Étymologiquement, ce mot garimpeiros renvoie à ceux qui se cachent dans les collines. Il y a dans ce terme une notion de monde parallèle, de monde à la marge. On ne va pas refaire ici toute l'histoire de l'or dans cette région du monde, mais retenez qu'en Guyane, les chercheurs d'or brésiliens ont toujours été là. Laurent Marot, journaliste pour Guyane Première et correspondant du journal Le Monde, décrit ici au micro de France Inter ces garimpeiros. Ces monsieur et madame tout le monde qui ont quitté le Brésil pour mener une vie certes de dur labeur, mais une vie libre. Avec en plus à la clé la possibilité de gagner beaucoup d'argent.
Alors, il y a autant d'orpailleurs brésiliens qui rentrent en Guyane. D'abord, c'est une donnée physique. Un fleuve à traverser, et puis voilà. Il y a évidemment aussi le facteur social, c'est-à-dire l'extrême pauvreté de nombre de ces orpailleurs clandestins, dont une bonne partie vient de l'état du Maranhão, état du nord-est brésilien, qui viennent ici bien, pour avoir une autre vie. Parce qu'il faut savoir qu'un porteur de carburant sur son dos, qui porte des charges de 50-60 kg de carburant sur son dos, eh bien, peut gagner jusqu'à 5000 reals par mois. C'est peu ou prou 10 fois le salaire minimum brésilien. Ces Brésiliens, on pourrait presque les qualifier de damnés de la terre. Et voilà, donc il y a une lucarne qui s'ouvre, on leur parle dans leur village là-bas au Maranhão de pourrin qui fait fortune, d'une exception, de quelques-uns qui ont fait fortune. Et voilà, c'est le rêve de changer de vie, de pouvoir avoir un terrain, une maison.
Jusqu'au début des années 2000, ces orpailleurs clandestins, on les trouvait à bord de barges sur des fleuves comme l'Oyapock, le Maroni ou la Prouague. Puis ces embarcations ont été démantelées par les autorités françaises et les garimpeiros se sont éparpillés à l'intérieur de la Guyane, dans le secteur de Dorlin notamment. Ils se sont mis à creuser des puits et des galeries de plusieurs dizaines de mètres pour chercher l'or. François-Michel Letourneau le décrit très bien dans son livre « Chercheurs d'or ». Il est directeur de recherche au CNRS, géographe et aventurier. C'est un fin connaisseur de l'Amazonie qu'il sillonne depuis des années. En suivant la Légion étrangère, il s'est débrouillé pour interroger de nombreux orpailleurs illégaux. En lisant son livre, on apprend qu'autour de ces chercheurs d'or, il y a une véritable micro-société qui se met en place avec son lot d'emplois. Des chefs de puits, des mécaniciens. Les chantiers requièrent aussi de grandes quantités de ravitaillement et de carburant qui leur sont livrés par des porteurs à pied, des pirogues, des quads. Les distractions éphémères, les bars ou les bordels viennent dans le sillage de ces travailleurs. Et tout ce petit monde est en situation irrégulière. Dans ce reportage de RFO Guyane, qui date de 2004, il est question du démantèlement de structures illégales. À Dorlin, justement. On ne parle pas encore de l'opération Harpy, celle à laquelle participaient les militaires Stéphane Moralia et Sébastien Pissot, mais de celle qui l'a précédée, l'opération Anaconda, créée en 2002.
Dorlin, un village fantôme au cœur de la forêt guyanaise. Un village de chercheurs d'or clandestins. Il serait dans cette région près de 2000 à travailler en toute illégalité et dans des conditions quasi inhumaines.
Les camarades de la PAF sont juste à côté de nous, à côté de l'équipe.
Depuis deux jours, gendarmes, police aux frontières et militaires ont investi les lieux. Près de 200 hommes. L'endroit est réputé pour être particulièrement dangereux. 4 homicides connus depuis le début de l'année. Depuis près de 2 ans que les opérations Anaconda ont été lancées en Guyane, 80 missions comme celle-ci ont déjà eu lieu. Même s'il est très difficile d'avancer des chiffres en matière d'orpaillage illégal, selon les autorités, 8 à 9 000 chercheurs d'or brésiliens clandestins vivent et travaillent encore dans la forêt guyanaise.
Les chiffres sont similaires aujourd'hui. L'estimation la plus récente est d'environ 12 000 orpailleurs clandestins sur le sol guyanais. Et chaque année, ces travailleurs clandestins exporteraient en contrebande entre 5 et 10 tonnes d'or vers le Suriname et le Brésil, contre environ 2 tonnes produites légalement chaque année en Guyane. Cela fait entre 250 et 500 millions d'euros de manque à gagner pour l'État français. Ce qui est loin d'être négligeable. Pourrait-on imaginer pareil pillage des ressources nationales dans un département de l'Hexagone ? C'est peu probable. Mais en Guyane, le terrain difficile et le manque de moyens face à l'ampleur du phénomène font que la situation perdure. D'où la mise en place d'opérations par l'armée française. Anaconda, puis Harpie. Aujourd'hui, les forces de la mission Harpie détruisent plus de 500 chantiers illégaux par an. Mais cela ne représente pas grand-chose pour les orpailleurs. L'Institut de recherche stratégique de l'école militaire estime ses pertes à moins de 10% de la valeur de l'or extrait clandestinement chaque année. Mais revenons à nos deux soldats français. Ont-ils été tués par les Garimpeiros ce 27 juin 2012 ? Eh non, c'est plus compliqué que ça. À partir de la fin des années 2000, entre la remontée du cours de l'or et l'intensification des opérations menées par l'armée tricolore, les chercheurs d'or clandestins se sont retrouvés davantage sous pression. Ils ont vu débarquer un gang mafieux brésilien peu recommandable. La bande dite de Felipe. Cette bande a commencé à confisquer leurs revenus. Plusieurs chefs de puits, exaspérés, décident alors de faire appel à un autre gang brésilien pour, si l'on peut dire, faire le ménage. Ce gang, c'est celui de Manuel Zinho. Retenez bien ce nom. Au tout début de l'année 2012, la bande de Manuel Zinho va tendre une première embuscade ultra-violente aux hommes de Felipe. Résultat, 5 morts dans la forêt. Il se trouve qu'au même moment, Nicolas Sarkozy, qui entre dans les derniers mois de son mandat présidentiel, est en visite sur le sol guyanais. Il ne manque pas de citer cet événement tragique lors de ses vœux à l'outre-mer prononcés depuis Cayenne.
Le combat qu'on a décidé d'engager contre les mafias de l'orpaillage clandestin, comme contre les mafias de la délinquance quotidienne, sera sans relâche. Absolument sans relâche. Ici, ce n'est pas le Far West. Et ça ne deviendra jamais le Far West. J'ai vu que deux bandes s'étaient entretuées hier, composées d'après ce qu'on me dit pour l'essentiel de Brésiliens. Mais ils n'importeront pas sur le territoire de la République française des pratiques mafieuses.
Ces pratiques mafieuses, comme il dit, ne sont vraiment pas la norme dans le monde des Garimpeiros. Mais en 2012, force est de constater qu'il y a bien des gangs en Amazonie guyanaise. Alors, quand les autopsies de l'adjudant Stéphane Moralia et du caporal-chef Sébastien Pissot révèlent qu'ils ont été touchés par des tirs d'armes de guerre, les soupçons se portent immédiatement sur la bande de Manuel Zinho. Manuel Zinho, ça veut dire « petit Manuel » en brésilien. Manuel Ferreira Moura. C'est son nom complet et le chef de ce gang. D'après les informations de Guyane Première, Manuel Zinho a été orpailleur lui-même dans la zone de Saint-Élie, non loin de Kourou, puis il s'est spécialisé dans le trafic d'armes, notamment au Suriname. C'est un gang très soudé que le sien, composé de frères, de cousins, d'amis, dont une bonne partie est originaire du même endroit au Brésil, la ville de Santa Helena, dans l'état de Maranhão.
Il serait une quinzaine d'hommes équipés d'armes de guerre. Mais le suspect numéro un, le noyau dur de la bande, c'est Ferreira Manuel Moura, surnommé Manuel Zinho. Ce Brésilien de 25 ans est déjà suspecté d'une douzaine de meurtres en Guyane et au Suriname. Depuis 3 semaines, il est traqué par les forces guyanaises, brésiliennes et surinamaises.
En effet, à partir du 27 juin 2012, une traque géante démarre dans la forêt guyanaise pour le retrouver lui, Manuel Zinho. Le tout dans un territoire grand comme le Portugal. Les patrouilles et les points de contrôle se multiplient. Plus de 150 gendarmes sont mobilisés. Ils veulent arrêter les meurtriers présumés de nos deux soldats français. Les autorités mettent en place des opérations, notamment de nuit. Les militaires mobilisés cheminent des heures dans la forêt amazonienne, à pied ou en pirogue, par 35 degrés, dans une humidité poisseuse, parfois sous une pluie battante et avec un équipement de protection très lourd. C'est clairement une épreuve. Les fugitifs, eux, prennent la direction du Brésil, à l'est, en se terrant dans la jungle. À plusieurs reprises, ils volent des pirogues, des quads. Ils tirent même sur des pêcheurs guyanais qui, miraculeusement, s'en sortiront indemnes. Pendant des semaines, des contrôles routiers supplémentaires sont mis en place sur la RN2, la seule route reliant le Brésil à Cayenne. Mais Manuel Zinho et son fidèle lieutenant Ronaldo Lima, dit le Brabo, ce qui signifie le fâché, parviennent malgré tout à passer la frontière. Les voilà au Brésil. Les forces de l'ordre françaises et brésiliennes collaborent. Et finalement, le 27 juillet 2012, soit un mois après l'attaque meurtrière de Dorlin, le JT de Guyane Première s'ouvre sur cette nouvelle.
Manuel Zinho, l'auteur présumé du meurtre de deux soldats français à Dorlin, a été interpellé ce matin dans un hôtel de Macapá au Brésil. La brigade du BOPE, l'unité d'élite de la police militaire brésilienne, a arrêté le fugitif avec un complice et une femme vers 9h ce matin.
Manuel Zinho reconnaît les faits, avant de se raviser. Dans les semaines qui suivent, d'autres complices sont arrêtés en Guyane et au Brésil. Mais il n'y a pas d'accord d'extradition entre la France et son voisin brésilien. Les familles des victimes doivent se préparer à un procès un peu particulier, sans les principaux accusés qui vont rester incarcérés là où ils ont été arrêtés, au Brésil. L'enquête est déléguée à la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, qui se voit confier les affaires complexes dans la zone anti-Guyane. C'est donc devant les assises de Martinique que le procès va se tenir en octobre 2016. 4 ans après la mort de Sébastien Pissot et Stéphane Moralia. Dans le box des accusés, Petit Manuel et son complice Le Brabo manquent à l'appel. Seuls deux de leurs seconds couteaux sont présents devant les jurés à Fort-de-France. Sur le banc des parties civiles, il y a la mère de Sébastien, Christiane Pissot. Elle confiera au journal Sud-Ouest combien elle a regretté de ne pas avoir pu regarder Manuel Zinho dans les yeux. C'est le journaliste Laurent Marot de Guyane Première, qu'on a entendu plus tôt dans cet épisode, qui détaille les peines prononcées. Elles sont très lourdes.
Perpétuité pour Manuel Moura Ferreira, alias Manuel Zinho, jugé en son absence à Fort-de-France, l'ancien chef de la bande armée de Dorlin est condamné pour le meurtre de 2 militaires et 9 tentatives de meurtre entre mai et juillet 2012 en Guyane. Incarcéré au Brésil avec Manuel Zinho, l'un de ses complices a été condamné à 30 ans de prison. Parmi les deux accusés présents, Itamar Bezerra Alves est cop de 20 ans, pour détention d'armes de guerre, participation à la bande organisée et complicité de tentatives de meurtre. Le deuxième accusé présent a été condamné à 18 ans de prison. La balle est maintenant dans le camp de la justice brésilienne. Incarcéré au Brésil, Manuel Zinho et son complice doivent être jugés pour ces faits à Macapá, à une date encore inconnue.
Au grand dam des familles, Manuel Zinho ne sera finalement jamais jugé au Brésil, car il décède début 2022 à Macapá, de complications de symptômes grippaux, diront les médias brésiliens. Sans doute à cause du Covid, mais on n'en saura pas plus. En revanche, son complice, Ronaldo Lima, avec qui il avait été arrêté, est condamné en mai 2022. Il écope d'une peine de 130 ans de prison pour avoir tué Sébastien Pissot et Stéphane Moralia et pour 22 autres tentatives de meurtre. Jean-Claude Moralia, le père de Stéphane, dira que pour lui, l'important désormais, c'est que son garçon ne soit pas tombé pour rien. Que son sacrifice serve à la Guyane et qu'il y ait une continuité dans l'action de l'État. De ce point de vue-là, il a été en partie exaucé. D'autres militaires français perdront la vie dans la lutte contre leur paillage illégal, mais jamais plus dans de telles embuscades. Des gangs subsistent, mais ils sont rares. Et les orpailleurs illégaux ne sont pas foncièrement violents. Le géographe de terrain, François-Michel Le Tourneau, en parle ici au micro de La Terre au Carré sur France Inter.
Les orpailleurs, sauf de rarissimes cas, ne sont pas du tout dans la confrontation avec les forces françaises. En fait, ils sont beaucoup plus à considérer que les policiers et les militaires font leur métier en détruisant leurs installations, que leur métier à eux, c'est de trouver de l'or.
C'est ça,
et
c'est des travailleurs avant tout.
Et donc ce sont des travailleurs qui jouent au chat et la souris avec les autorités.
Reste une question. Combien la France est-elle prête à débourser pour éradiquer leur paillage clandestin? Car outre le fait que ces travailleurs ne paient ni impôts ni charges sociales dans notre pays et pillent des ressources nationales, il y a un véritable coût environnemental. L'orpaillage illégal, c'est la déforestation pour creuser des puits, les fleuves boueux qui charrient les rejets des chantiers, le mercure utilisé pour amalgamer les paillettes d'or qui se répand partout, au point que les cours d'eau deviennent impropres à la consommation pour les populations locales. Alors c'est vrai, depuis le drame de Dorlin, la loi a été un peu durcie. Les gardes à vue dans les affaires d'orpaillage en Guyane peuvent désormais durer plus longtemps. Les peines sont un peu plus lourdes en cas d'infraction. Mais le problème subsiste. Et la mission des militaires tourne un peu à l'histoire sans fin. La France, la Guyane, n'ont pas oublié le sacrifice de Stéphane Moralia et Sébastien Pissou. Ils ont reçu à titre posthume les grades d'adjudant-chef et de sergent du 9e RIM. Une stèle à leur nom a été édifiée sur le site de Dorlin en pleine forêt. Quelques 250 marsois, c'est ainsi qu'on appelle les soldats de l'infanterie de marine, sont aujourd'hui encore mobilisés en permanence sur l'opération Harpie. Le 27 juin 2022, 10 ans après le drame, plusieurs d'entre eux se sont réunis autour de la stèle pour leur rendre hommage. Fidèles à leur devise, marsouins toujours. Vous venez d'écouter Archipel du crime. Dans le prochain et dernier épisode de cette saison, nous allons en Guadeloupe pour vous raconter la vie de Fabrice Borromé, délinquant à perpétuité. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Léa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bunn. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stana Roumiak qui vous a raconté cette histoire.